VOA Afrique, les infos. À Washington, Jean-Roger Billon.
Il est 17h à Conakry, une heure de plus à Bangui. Bonsoir, bienvenue. En Guinée, les affrontements entre les forces de l'ordre et les jeunes manifestants ont repris ce matin sur l'axe Bambeto-Koussa, alors que les Guinéens devraient connaître les résultats du premier tour de la présidentielle en fin de semaine. Nathalie Barge.
Légalement, la commission électorale guinéenne dispose de 72 heures après réception du dernier procès verbal du scrutin du 11 octobre avant d'annoncer les résultats. Le taux de participation au premier tour est d'environ 75% selon un communiqué de la CENI qui affirme que la journée du scrutin a été caractérisée par la sérénité, le calme et un engouement exceptionnel. La commission a essuyé des critiques des missions d'observation en raison de problèmes logistiques et d'organisation qui ont entraîné d'importants retards. Le chef de la mission d'observation de l'Union européenne, Frank Engel, a reproché à la CENI d'avoir changé les règles du scrutin dimanche, précisant que certaines modifications étaient en contradiction avec le code électoral. Quant aux 7 candidats en lice face au président sortant Alpha Condé, ils ont réclamé l'annulation du premier tour. Estimant que les institutions judiciaires ne sont pas indépendantes, l'opposant Seloud Alaine Diallo a préféré mobiliser ses partisans dans la rue. Le ministre de la Justice, Cheikh Sako, a mis en garde mardi contre tout appel à la violence, notamment les manœuvres et actes de nature à compromettre la sécurité publique ou à occasionner des troubles politiques. Et il a rappelé que toute contestation des élections devait se faire devant la Cour constitutionnelle.
Au Burkina Faso, Amnesty International s'est prononcé aujourd'hui contre une éventuelle amnistie des soldats du régiment de sécurité présidentiel, l'URSP, auteur du coup d'État manqué du 17 septembre. L'Organisation des droits humains réclame aussi que ce soit plutôt un tribunal civil et non militaire qui soit chargé de juger cette affaire de putsch. On écoute Gaëtan Moto, il est chercheur à Amnesty International.
Nous voulons la justice. Nous demandons à ce que les personnes qui ont tué nos proches puissent répondre de leur acte. Et ça, c'est important pour nous. Et c'est pour ça que nous demandons à ce qu'il y ait également l'établissement d'une commission d'enquête pour faire à la fois la lumière sur les événements du coup d'État, au cours desquels plusieurs personnes ont été tuées, battues. Il y a eu notamment des menaces sur la liberté d'expression. Il y a également des décès collatéraux. Nous demandons également à ce que l'enquête soit étendue également aux événements d'octobre et de novembre dernier, au cours desquels plus d'une dizaine de personnes ont été tuées par balle. Ce que nous attendons de cette commission d'enquête, c'est qu'elle soit véritablement indépendante et impartiale, et qu'elle soit constituée notamment de personnes qui sont compétentes, connues pour leur indépendance et qui ont une compétence sur un certain nombre de choses.
Gaëtan Moto, chercheur à Amnesty International, dont les propos ont été recueillis par Bagassi Koura, envoyé spécial VOA Afrique dans la capitale burkinabé.
VOA Afrique en direct de Washington.
En République démocratique du Congo, les Nations Unies ont de nouveau assuré n'avoir commis aucune bavure lors d'une opération aérienne menée début octobre par les casques bleus dans l'est du pays. L'ONU conteste donc le bilan de 5 civils tués donné par les autorités de Kinshasa après 2 missions conjointes de la MONUSCO et des autorités locales dans la région de Pinga, dans le centre de la province du Nord Kivu. Nous pouvons confirmer à ce jour la mort d'un combattant dans le village de Musanga, a déclaré Charles Bambara, le directeur de l'information de la mission de l'ONU en RDC, la MONUSCO. En République centrafricaine, une bonne partie de l'opposition dit non aux concertations des forces vives de la nation ouvertes lundi par la présidente de la transition, Catherine Samba Panza. Réunie au sein de la plateforme des partis associations, ces personnalités maintiennent leur mot d'ordre de boycott. Le président du Parti africain pour la transformation et l'intégration des États, Patri, et porte-parole des frondeurs, Maître Crépin Mboligumba, en donne ici les raisons.
La présidente intérimaire avait annoncé l'ouverture d'une concertation sans exclusive, c'est-à-dire inclusive, avec les forces vives de la nation. Malheureusement, elle a décidé de faire une consultation avec des gens triés sur le volet. Nous voulons une concertation inclusive avec tous les fils et filles de ce pays pour discuter de trois sujets principalement. Le premier sujet, c'est la sécurité. Comme vous le savez, la sécurité s'est dégradée. Je rappelle qu'il y a eu à ce jour 77 personnes tuées, des maisons incendiées et des pillages. Le deuxième point, c'est le processus électoral. Le président de l'Autorité nationale des élections a démissionné et ce processus électoral est en danger. Enfin, le troisième sujet, c'est le vide constitutionnel à partir du 31 décembre. Il faudrait bien que ceux qui sont concernés, c'est-à-dire les forces vives de la nation, se retrouvent, discutent et décident. Voilà pourquoi nous avons décidé, nous, au niveau de la concertation élargie, de ne pas participer à cette mascarade.
Maître Crépin Boligumba, président du Patri et porte-parole de la concertation élargie au micro de Félix Yepassi Zembrou. Au Burundi, des tirs à l'arme automatique, des explosions de grenades ont été entendues hier après-midi dans le quartier Ngagara, au nord de Bujumbura, la capitale. Même si la police parle de 10 personnes tuées, dont un policier, d'autres sources indiquent que le bilan pourrait être très lourd. Parmi ces morts, un vieux caméraman et sa famille ont été décimés par des policiers. Christophe Nkurunziza nous appelle de Bujumbura.
D'après des sources de la population en Ngagara, la famille de Christophe Nkurunziza, grand caméraman à la radio-télévision nationale, a été attaquée à la grenade et ou à la roquette. Les tirs étaient automatiques dans ce quartier qui conteste le troisième mandat de Pierre Nkurunziza. La femme de Nkurunziza et ses deux enfants, Trésor et Kamiki Imana, ont été tués. La police, qui s'est dépêchée à enlever les corps des victimes, parle de 10 personnes tuées, dont un policier. Un autre policier aurait été blessé. Jusque tard dans la nuit, des tirs étaient entendu dans les quartiers au nord de la capitale. Des sources des habitants de Ngagara affirment que d'autres corps étaient enlevés par la police mercredi matin. Parmi eux, de nombreux cadavres d'enfants qui étaient ligotés avant d'être abattus. Une autre nuit cauchemardesque dans les quartiers au nord de la capitale qui aurait fait, d'après des sources de la population, plus de 10 personnes tuées. Des voitures de la police auraient fait plusieurs navettes entre ces quartiers et des hôpitaux de la capitale. L'Union africaine, la communauté internationale qui appelle au dialogue entre tous les protagonistes burundais assistent impuissantes à la dégradation de la sécurité au Burundi. Christophe Nkurunziza, Bujumbura, VOA Afrique.
Et plusieurs milliers de Sud-Africains ont manifesté ce mercredi à Johannesburg à l'appel d'organisations syndicales et politiques contre la corruption et les pertes d'emplois. Les manifestants accusaient le président Jacob Zuma d'avoir détruit le pays. C'est la deuxième marche anti-corruption organisée en deux semaines en Afrique du Sud. Et toujours en Afrique du Sud, plus de trois ans après le massacre de mineurs par la police à Marikana, le président sud-africain Jacob Zuma a suspendu aujourd'hui la chef de la police nationale, Ria Fiega, dans l'attente des conclusions d'une enquête sur sa capacité à occuper son poste. 34 mineurs avaient été abattus par la police le 16 août 2012 sur le site de la mine de platine près de Rustenburg dans le nord du pays. La pire fusillade policière depuis la fin de l'apartheid en 1994. Personne n'a été poursuivi à ce jour pour la tuerie de Marikana, tandis que les familles de victimes se battent toujours pour obtenir des dommages et intérêts. Hors du continent, en Turquie, le ministère de l'Intérieur a limogé aujourd'hui les responsables de la police d'Ankara, quatre jours après le double attentat le plus meurtrier de l'histoire du pays et qui a suscité un nouveau vent de fronde contre le président Recep Tayyip Erdogan, et cela à la veille des législatives. Jacques Aristide.
Les têtes commencent donc à tomber après l'attentat meurtrier d'Ankara. Kadri Kartal, le patron de la police de la capitale, et deux de ses adjoints sont les premiers à être destitués. Des développements qui surviennent au lendemain de l'aveu du président turc qui a concédé hier soir l'éventualité de faute de ses services avant l'attaque. Recep Tayyip Erdogan a annoncé l'ouverture d'une enquête du Conseil d'inspection de l'État afin d'identifier les manquements à la sécurité avant l'attaque qui a fait samedi dernier au moins 97 morts et plus de 500 blessés. Le chef de l'État s'est recueilli ce matin sur le site de l'explosion où il a déposé une gerbe à la mémoire des victimes. L'opposition pro-kurde pointe du doigt ses responsabilités dans l'attentat. La Turquie a fait du groupe État islamique le suspect numéro 1, le président Erdogan, affirmant que cette attaque terroriste trouve ses origines en Syrie. D'après l'AFP, les deux kamikazes présumés seraient des ressortissants turcs, l'un le frère de l'auteur de l'attaque à suicide de Suruç et l'autre connu pour être allé combattre à deux reprises en Syrie.
Israël-Palestine, le chef de la diplomatie française Laurent Fabius s'est entretenu ce mercredi avec son homologue américain John Kerry pour tenter d'éviter l'escalade après la vague d'attentats en Israël, a annoncé aujourd'hui le porte-parole du gouvernement français. Fin de ce journal, l'actualité est en continu sur voafrique.com. Dans 20 minutes, le magazine Le Monde Aujourd'hui, Jean-Roger Billon à ce micro. Au revoir.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.